À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci d'être au rendez-vous pour la reprise de Séquence Midi. Nous sommes en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, les chroniques de nos partenaires et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parle d'action en faveur du bien vivre en Vienne pour réduire les inégalités sociales, sociétales et environnementales. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais on parle aussi protection de la nature et ce en compagnie de Simon Chapenoir, chargé de mission ornithologique à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux Poitou-Charentes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion du lancement de cette campagne « Quand la binette ne rime pas avec omelette ». C'est vous qui avez trouvé le slogan?
C'est un petit slogan, en effet, pour sensibiliser et vraiment interpeller sur une espèce qui risque des destructions, notamment lors des travaux agricoles dans les champs.
Donc cette espèce, c'est le Dicknem criard ou courlis de terre. Alors qui est ce petit oiseau? Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Donc c'est un oiseau de la famille des limicoles, donc qui a des grandes pattes. Et il est très reconnaissable par ses pattes jaunes, très hautes, et ses yeux jaunes également. Et c'est un oiseau qui va se confondre dans la terre, notamment c'est pour ça qu'on l'appelle courlis de terre. Et également, donc, son autre nom c'est le Dicknem criard, car il vocalise très fort au crépuscule, hein, il va vraiment crier pour occuper son territoire en fait.
Vous pouvez nous faire le cri?
Non, c'est vraiment compliqué.
Pas là. Okay. Alors, est-ce que c'est un oiseau typique de la Vienne? Comment il est réparti?
Alors, c'est un oiseau qui est vraiment présent dans le Poitou-Charentes de manière plus générale. On a à peu près un tiers des effectifs nationaux en Poitou-Charentes. Donc, il y a un enjeu de conservation qui est important sur cette espèce, en fait, notamment dans le Poitou-Charentes.
Et est-ce que c'est une espèce protégée? Est-ce que sa reproduction est mise à mal?
Alors, c'est une espèce qui est protégée, évidemment. Et on constate des déclins de la population assez forts. Donc, il y a une étude locale en Deux-Sèvres qui a permis d'observer une diminution de moins 26% sur les 14 dernières années. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc c'est une espèce qui est sensible notamment, sa principale menace, c'est la destruction lors des travaux agricoles. En fait, quand les agriculteurs vont passer dans les parcelles, ils vont soit semer les champs, notamment c'est les champs de tournesol, les champs de maïs, les cultures de printemps, qui vont être semées à cette période ou même un peu plus tôt. Et le Dicknem en fait va pondre ses œufs à même le sol. Il va pondre des œufs qui ressemblent à des cailloux, en fait, tout simplement, qui sont très difficiles à voir. C'est pour ça que c'est difficile à voir pour les agriculteurs et les risques de passer dessus et de faire une omelette avec les œufs, hein, involontairement évidemment, mais voilà, il y a un risque de casse sur les pontes.
Et donc c'est pas pour rien que vous lancez cette campagne maintenant, parce que c'est vraiment au printemps que tout se joue, hein.
Là c'est vraiment la période critique, donc on est sur le pic de ponte de l'espèce, donc là on a de plus en plus d'oiseaux qui couvent leurs œufs, et puis des travaux agricoles qui vont, soit qui ont déjà eu lieu, soit qui vont arriver prochainement. Et donc des risques de destruction des œufs involontaires, mais un risque qui existe bien.
Donc pour les préserver, vous avez mis en place un repérage des couples et vous marquez les nids en fait.
Donc c'est ça, on circule dans les habitats qui lui sont favorables. Donc c'est vraiment des parcelles, faut s'imaginer des parcelles de terre, vraiment des sols nus, hein, en fait. On voit vraiment que la terre, il se cache dedans. Et nous, on va circuler autour de ces parcelles agricoles pour essayer de repérer des adultes, des couples, qui ont un comportement couveur-guetteur. Donc on observe un couveur qui est couché au sol et le guetteur qui va surveiller en fait le couveur.
Et j'allais vous demander, parce que si les œufs n'arrivent pas à les repérer,
c'est difficile de repérer les œufs. Et même les oiseaux eux-mêmes, quand ils sont bien tapis sur le sol, ils sont très difficiles à voir. Ils sont vraiment mimétiques, le plumage est vraiment mimétique avec la terre. Et donc on essaie au maximum de repérer ces couples avec des comportements donc, qui nous laissent penser à la présence d'un nid. Et derrière, on va contacter les agriculteurs. Donc il y a tout un travail de sensibilisation et de travail avec les agriculteurs. Vraiment, c'est un travail qui se fait avec les agriculteurs pour repérer les nids. Et s'il y a un risque qu'ils interviennent dans le champ pour risquer de détruire la nichée, la couvée, on va mettre en place des bâtons en bois en fait, colorés, pour qu'ils puissent éviter, contourner le nid.
Et comment se passe justement cette collaboration avec les agriculteurs? On a tendance parfois à vous opposer entre associations de protection de l'environnement et agriculteurs, enfin surtout quand il y a des crises. Mais là, c'est vraiment main dans la main. Hein.
Alors là, c'est vraiment, ça se passe vraiment idéalement avec les agriculteurs. Il y en a même de plus en plus, donc du fait du travail de sensibilisation. Donc il y a un programme qui s'est terminé l'année dernière qui a duré 3 ans, de 2021 à 2023. Et donc là, on a pu quand même, sur ce programme, repérer plus d'une centaine de nids et en protéger 82 sur la totalité du programme. Et sur la totalité, par exemple, l'année dernière, on a repéré 57 nids. On n'en a protégé que 27. C'est-à-dire qu'il y en a 30 qui ont été évités directement par les agriculteurs ou des agriculteurs qui n'intervenaient pas au champ, donc ça, il n'y avait pas de dérangement. Mais on a de plus en plus d'agriculteurs qui nous appellent pour signaler un nid ou pour nous demander comment le contourner et protéger l'espèce.
Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, il y a des endroits où il y a plus de possibilités, plus de chances de les rencontrer? Est-ce qu'ils ont des endroits favoris?
Donc c'est vraiment plutôt dans les zones de plaine. C'est un oiseau qui est originaire plutôt des steppes. Donc il va chercher des habitats de type steppe. Et ce qui mime le plus la steppe chez nous, ça va être donc dans la plaine et des parcelles vraiment de cailloux. Il aime bien même quand il y a beaucoup de cailloux dans les champs. Et puis des parcelles de terre, vraiment le plus plate possible. Donc ça va être plutôt au nord de Poitiers, dans la plaine assez intensive, hein, d'un point de vue agricole, c'est une plaine assez intensive. Mais c'est l'habitat qui lui correspond le plus et c'est l'endroit où il y a le plus de densité dans le département.
Est-ce que vous avez besoin aussi peut-être de bénévoles pour faire le repérage de ces nids? Comment ça se passe?
C'est ça, on compte beaucoup sur les bénévoles aussi pour nous aider à repérer les nids et puis à les poser, les protections aussi, et contacter les agriculteurs. Enfin, vraiment, on travaille beaucoup avec les bénévoles également pour le repérage des nids.
Donc vous pouvez être formé par, bah, par vous, par...
Exactement, c'est
la
ça. Donc on propose chaque année une formation, là qui a déjà eu lieu cette année, plutôt en début de saison, pour former des bénévoles au repérage et puis à la protection des nids derrière.
Donc là, on parle d'une espèce un peu particulière qui est plutôt dans les champs, mais il y a plein d'espèces qui, à cette période, au printemps, doivent être protégées. Donc là, ce n'est pas que les agriculteurs qui peuvent agir, c'est un peu tout le monde en fait.
C'est ça, il y a dans les jardins aussi. Hein, donc c'est vraiment une période où il faut éviter de tailler les haies, où il peut y avoir des nids dans les haies du jardin. Dans les arbres, enfin voilà, toute la végétation, il vaut mieux la laisser tranquille au printemps et puis à ce moment-là on pourra reprendre à partir de septembre des tailles jusqu'à mars, on va dire. C'est des périodes qui sont pas dérangeantes pour la faune.
Donc il faut anticiper quoi, c'est avant.
Il faut essayer d'anticiper, oui, c'est pas évident, hein, parce que tout le monde a envie de faire des travaux au jardin quand il fait beau, hein, c'est normal, hein. Mais voilà, faut bien penser, il y a de la vie aussi dans nos jardins, dans nos haies. Donc c'est
donc
bien de la préserver.
Même tondre la pelouse, ça peut être dangereux pour certaines...
Tondre la pelouse, normalement, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas d'oiseaux. C'est très rare des oiseaux qui nichent au sol dans les jardins. Les oiseaux qui nichent au sol, ça va être vraiment plutôt dans la plaine, dans des secteurs ouverts. Donc là, on a plusieurs espèces, notamment dans la plaine, qui peuvent nicher au sol, notamment les busards, l'outarde, qui peuvent nicher au sol.
Donc sinon, c'est plutôt les haies et les arbres, quoi.
Ouais, c'est les haies, arbustes, arbres, voilà, qu'il faut penser à préserver ces milieux.
Et puis bon, pour la pelouse, il y a quand même les petits hérissons qui peuvent se
prendre.
Voilà,
il y a les hérissons.
Merci beaucoup Simon Chaponard. Donc vous êtes venu nous sensibiliser. Donc quand la binette ne rime pas avec omelette, voilà le nom de la campagne qui est en cours pour protéger ces The Dicknem criard qui nichent donc dans notre région. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec du hip-hop, le jeune trio londonien Insincere qui est devenu viral sur TikTok. Voici leur titre Painkiller.
I take her out the cabinet, put her in my mouth. Can you handle it? Manage it, washing it down. Put the bottle back now, but I want another tablet. She my little paracetamol, little white pills. She my little, yeah, I bet you won't know that I will. Like da da da, like da da da. She's my painkiller. I don't feel no pain when I'm with her. No matter how I try, yeah, 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 I just can't quit her. Yeah, she's my painkiller. She making this sick boy iller. She gets me high, yeah, 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 high, yeah, yeah. Okay, well I can't find her. Where's my wallet? Gonna get me so worried, so sorry. Somebody just said that the voice in my head was not alone, so I put it down my throat. Ibuprofen, yeah, my eye be open when I'm broken and I'm hoping for some oxytocin. Like la la la. She's my painkiller. I don't feel no pain when I'm with her. No matter how I try, yeah, 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 I just can't quit her. Yeah, she's my painkiller.
She making this sick boy in love. She gets me high, yeah, yeah, yeah. High, yeah, yeah, yeah. Don't talk to me. Sure, yeah, can't feel my body. Come back, cause I can feel the sweat and start. Bam, 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 faster than my racing heart. You make me shiver. Hands on you, but I'm the only one who's perfect, yeah. Ooh, give me another. Yeah, she's my painkiller. I don't feel no pain when I'm with her. No matter how I try, yeah, yeah, yeah. I just can't quit her. Yeah, she's my painkiller. She making this sick boy iller. She gets me high, yeah, yeah, yeah.
Ça sent rudement bon.
Oui, c'est vrai.
Bizarre, c'est bon.
Vous en voulez? Oh, merci.
Point d'exclamation.
Et pour représenter aujourd'hui la Fondation Territoriale de la Vienne, on accueille Hélène Pagrimaud en charge de l'animation et du développement. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Moll qui est agent général MMA Assurance à Poitiers et Lencloître et mécène de cette fondation. Bonjour.
Bonjour également.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler des dernières actions de cette Fondation Territoriale de la Vienne qui est née il y a quelques mois, qui a été créée peut-être. Alors vous étiez venue pour la création de la Fondation. Peut-être en quelques mots, Hélène Pagrimaud, si vous pouvez nous rappeler... quels sont les fondements de cette fondation ?
Cette fondation, c'est été créée par des dirigeants d'entreprises qui avaient envie d'offrir au territoire un outil collectif et collaboratif pour toutes les entreprises qui veulent agir localement sur leur territoire et qui n'ont pas forcément le temps de connaître les diagnostics territoriaux pour savoir sur quelles inégalités on doit agir dans notre département. Et connaître les associations qui œuvrent sur ces inégalités. Donc l'idée, c'est de fournir un outil clé en main qui leur permette de sourcer tous ces éléments et donc de pouvoir faire du mécénat en local.
Donc la première étape, ça a été de rassembler un certain nombre de mécènes dont vous faites partie, Jean-François Moll. Dites-moi, pourquoi vous avez rejoint l'aventure ?
Il y a forcément plusieurs raisons. La première, c'est comme dans beaucoup de couples, qu'elles se soient dans le domaine privé, professionnel ou associatif, c'est une rencontre. Et j'ai rencontré Hélène qui débordait d'énergie et je me suis dit, tiens, elle a quelque chose à nous faire partager. Et puis ma sensibilité personnelle va faire que voilà, j'ai forcément été sensible à ce projet-là. Et vous l'avez dit aussi de la même manière, vous avez cité quel était mon métier. J'ai souvent tendance à dire, j'ai un métier qui ne fait pas rêver grand monde, à part moi et je l'espère mes collaborateurs. Donc il est aussi important de pouvoir y donner du sens. Et c'était l'occasion.
Donner du sens à vos actions, c'est clairement ce que fait effectivement la fondation. Et donc là, vous avez fait un appel à projet pour les différentes associations qui sont porteurs de projets sur les territoires. Un appel qui a trouvé son public. Hein.
Et oui, effectivement, parce qu'on avait lancé sur deux thématiques restreintes. Hein, donc alimentation de qualité pour tous et mobilité pour tous. Et on s'attendait à une vingtaine de dossiers. On en a eu 34 au final. Donc, on est extrêmement content de cette mobilisation des associations. Et à la fois, on se dit que si on a autant de dossiers, c'est aussi qu'il y a un vrai sujet de financement et d'accompagnement de ces associations. Donc, content. Et à la fois, ça révèle aussi le besoin qu'il y a d'avoir cet outil en Vienne pour soutenir l'action aussi des politiques publiques et obtenir du financement privé qui vient en relais pour les accompagner.
Oui, ça montre la réalité des associations aujourd'hui. De voir toutes ces associations qui postulent à cet appel à projet, vous vous êtes dit, vraiment, il est là le sens, on fait quelque chose d'utile ?
Alors en fait, ça s'est passé un petit peu avant. C'est quand je suis intervenu au début de la fondation, il n'y avait pas grand monde. Par contre, très rapidement, mon équipe et moi-même, on s'est dit, il y a vraiment un projet très important pour agir et pour des solutions équitables et pour augmenter l'attractivité de notre territoire. Et on s'est dit, il faut y aller. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en en parlant autour de nous, il y a plein d'oreilles qui nous écoutent, il y a plein d'eux qui brillent. Et la preuve, c'est qu'on arrive à rassembler de plus en plus de monde.
Donc 34 candidatures. Comment ça va se passer maintenant ? Quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, on a une prochaine étape demain. Avec tout, en fait, il y a plusieurs organisations dans l'organisation de la Fondation. Demain, c'est le comité révélateur d'initiatives qui rassemble... maintenant près d'une vingtaine en fait de bénévoles de différentes structures. Alors c'est des citoyens bénévoles, mais on a aussi des référents de différentes structures comme France Active, comme la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, comme l'association ATIS, Et puis les référents des collectivités qui nous accompagnent, que sont le département et que sont Grand Poitiers. Et puis après tout un tas de mécènes qui avaient envie d'œuvrer dans cette commission-là, qui avaient envie de donner du temps pour sélectionner les assos. Donc demain, en fait, on va passer de 34 dossiers à 20 dossiers. Donc on fait une sélection d'une shortlist et puis le 29 mai on les reçoit en euros et on va à nouveau avec tous ces gens qui ont co-construit, hein, c'est qu'un outil de co-construction, donc on a tous ensemble co-construit les grilles de critères d'analyse et on passe à chaque fois les étapes et on, voilà, donc demain une grosse étape et puis le 29 mai les euros pour sélectionner les 10 finalistes.
Voilà, il y en aura 10, il en restera 10 à la fin. 10 qui recevront une aide de 10 000 euros chacun, donc récoltée grâce aux mécènes et grâce à tous les soutiens que vous avez. Quels sont un petit peu les objectifs que vous vous mettez derrière? Quels sont les critères dans cette sélection? Vous, les coups de cœur, ça ira dans quelle direction
Les coups de cœur, ça ira sur chacune déjà des deux thématiques. Le gros enjeu, ce qu'on cherche aussi, c'est des associations qui ont compris l'enjeu de coopération, en fait. Donc, dans leur projet, savoir qu'elles interagissent avec leur territoire, qu'elles interagissent avec des projets analogues sur d'autres territoires, ça, c'est un critère important. Après, on regarde vraiment tout type de projet. Pour l'instant, on est vraiment très ouvert à quel que soit le stade de développement du projet. On essaye par contre de faire en sorte qu'il y ait une équité territoriale. Donc les premières années, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, l'ambition qui est portée, c'est de se dire qu'on veut soutenir les associations sur les 7 EPCI qui composent le territoire. Ça, c'est l'ambition. Maintenant, il faut qu'on arrive à se faire suffisamment connaître de tout le tissu associatif pour qu'on ait aussi une équité dans tous les dossiers qu'on obtient. C'est vrai qu'on voit très vite, j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'on a certains EPCI dont les associations sont plus représentées que d'autres.
Et est-ce qu'il y a des différences dans les structures? Alors, c'est toutes des associations, j'imagine, mais de tailles différentes, oui. D'ambitions différentes?
Oui, on a vraiment des associations qui sont déjà très connues et reconnues, qui postulent quand même. Alors qu'on se dit, peut-être qu'il y aurait d'autres sources de financement au national. Ouais. Et on a aussi des beaucoup plus petites structures. Donc, je pense que, on élimine personne, on regarde les projets. Il y a des projets de grosses structures qui sont vraiment des expérimentations qui peut-être ne trouvent pas des sources de financement, hein, puisque souvent, les critères de financement sont très spécifiques dans des grandes fondations et autres. Donc, ils ne trouvent pas toujours le financement pour expérimenter certaines choses. Donc, on ne se ferme pas là-dessus, tout comme on reste très ouvert à des petites assos qui, eux, ont des difficultés vraiment pour se financer. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Voilà, on reste ouvert sur les deux, toute l'échelle des tailles de structure.
Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu des exemples? Je sais qu'il y a le garage solidaire qu'on avait reçu, nous, Soligo 86, qui a postulé.
Oui. alors, je pourrais vous en citer, plein. Après, je voudrais...
Enfin, oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont sélectionnés c'est ça un peu le problème.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, peut-être les domaines dans lesquels, même dans les critères que vous aviez donnés, est-ce qu'il y a un peu des choses qui se démarquent?
Il y a des choses qui se démarquent, c'est sur les EPCI, il y a quand même, on a des centres sociaux en fait, qui vont postuler aussi sur toutes les démarches de mise en place des plans alimentaires territoriaux. Et d'ingénierie, où en fait ces plans alimentaires que tous les territoires doivent mettre en place nécessitent énormément d'ingénierie pour arriver à faire en sorte que les plus démunis arrivent à obtenir aussi une aide alimentaire. Et en fait, on se rend compte que cette ingénierie spécifique aux plus précaires n'est pas forcément toujours financée. Donc on a des demandes beaucoup dans ce sens-là, auxquelles on ne s'attendait pas en fait. Et puis après, on a des projets. On a des projets qui repostulent typiquement, qu'on a financé l'an dernier et qui repostulent parce qu'ils veulent continuer de déployer leur action, que ce soit des scooters, mais on a deux nouvelles associations qui repostulent aussi sur la mise à disposition de scooters électriques à très bas coût pour les jeunes sur leur premier emploi parce qu'ils n'ont pas encore le permis. Où là, on voit que effectivement, c'est des outils qui peuvent être utiles, en tout cas en milieu rural, où on n'a pas de transport en commun du tout, en fait. Et quand on cherche son premier emploi en milieu rural, ça peut être effectivement une vraie difficulté. Donc,
Vous étiez à Barangay pour présenter tout ça. Mmh. Donc eux aussi, ils ont un projet de tiny house pour voilà, la question du logement des jeunes en ruralité. Mmh. Ça, ça fait partie des thématiques. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ? Peut-être la jeunesse, j'ai l'impression, dans certains cas, ou pas forcément ?
Si, la jeunesse, ça fait partie des thématiques sur lesquelles nous, on souhaite œuvrer. Ça ressort, mais ce n'est pas un critère discriminant. Et donc, on a des dossiers qui sont dédiés à la population jeune, mais d'autres qui sont très ouverts sur tout type de population. C'est un sujet dans la Vienne, il ne faut pas l'oublier. Hein. On a 27% des jeunes de moins de 30 ans dans la Vienne qui vivent sous le seuil de pauvreté, contre 22% dans les moyennes nationales et régionales. Donc, ça reste un sujet sur lequel on est attentif. Maintenant, c'est pas, si c'est une action qui est plus large et qui touche tout autre type de public, on n'est pas non plus fermé.
Donc maintenant, les autres étapes, donc il y aura la sélection et puis il y a trouver les fonds pour cette année et les années suivantes. Donc j'imagine que vous allez reprendre votre bâton de pèlerin pour motiver des collègues mécènes.
Exactement. Donc déjà, au sein de notre équipe, nous pouvons compter sur mes quelques collaborateurs pour en parler autour d'eux. C'est déjà le cas. Mais nous pourrons avoir plein d'exemples. L'avantage de mon métier, c'est que nous croisons en fait des populations extrêmement diverses. Ce qu'il y a, comme je le fais dans la plupart de mes contacts, je m'efforce d'en parler. Nous avons par exemple une réunion, je vais parler de moi, où nous réunissons un certain nombre de clients, 40 à 50 clients dans une opération, on va dire commerciale, dans quelques jours. L'idée toute simple, ça a été d'inviter Hélène pour qu'elle vienne se présenter son projet. Et je suis certain que dans les 50-60 clients, prospects, prescripteurs qui seront là, heureusement ou malheureusement, on va dire heureusement parce que c'est une perspective, il y en a 80-90% qui vont découvrir le principe de la fondation et qui auront pour une partie envie d'adhérer.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Hélène Pagrimaud en charge de l'animation et du développement donc, à la Fondation Territoriale de la Vienne et puis Jean-François Moll qui est agent d'assurance à Poitiers et mécène donc, de cette fondation. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci.
On continue Merci. Avec le Toit du Monde et puis Louis-Marie Bonneval aujourd'hui reçoit la Fédération des Centres Sociaux en la personne de Denis Renaudin, son délégué.
Denis, tu es délégué de la Fédération des Centres Sociaux de la Vienne, dont fait partie le Toit du Monde. Qu'est-ce que c'est ?
La Fédération des Centres Sociaux, c'est une association d'associations qui fédère ce qu'on appelle les centres sociaux, les maisons de quartier, les centres sociaux culturels, les maisons pour tous. 24 associations dans la Vienne, 2200 associations et structures en France. On a une fédération nationale qui s'appelle la Fédération française des centres sociaux.
Quels sont les principes et les axes d'action de la FCSV ?
Donc, nous, c'est l'appui et l'accompagnement à nos adhérents. Nos adhérents sont des associations gérées par des bénévoles. Et nos principes, c'est la démocratie, c'est la solidarité, c'est les fonctions d'accueil, les solidarités. C'est ce qu'on met en œuvre en accompagnement des adhérents qui sont des bénévoles et aussi des équipes salariées.
Alors, quel est ton rôle en tant que délégué départemental ?
Eh bien, justement, c'est d'accompagner ces bénévoles, ces administrateurs, administratrices qui gèrent des petites entreprises associatives, qui développent des services à l'enfance, à la famille, à la jeunesse, des actions de solidarité, d'aide alimentaire. Et c'est comment on les accompagne à mettre en place leurs projets, à aller chercher les financements, sur les questions de ressources humaines aussi, questions de formation pour les bénévoles, formation pour les salariés.
Alors, les centres sociaux, actuellement, sont dans une situation difficile. Pourquoi ?
Alors, les centres sociaux sont des associations qui vivent sous le régime de la subvention. Et puis, on a aussi une convention collective. On a une revalorisation des salaires, puisqu'on avait des problèmes de recrutement, des problèmes de fidélisation de salariés. Donc, notre branche, ELISFA, a recalculé, remouliné, on peut dire, le calcul, plutôt ce qu'on appellerait des bas de grille, plutôt des fonctions d'animateur. Et donc, il y a un coût salarial, une augmentation qui est autour de 8 à 12% dans la Vienne. Et ces financements, nous, ils viennent de financements publics. Donc, aujourd'hui, on interroge nos financeurs publics. Alors, on a les caisses d'allocation familiale qui sont tout à fait présentes, des collectivités qui sont tout à fait présentes, plutôt 40-50% dans la Vienne. Mais aussi, il y a les services de l'État, où aujourd'hui, le financement est dégradé, puisque les financements structurels baissent. Et par contre, les financements à projet augmente, donc ce qui nous met dans des grandes difficultés.
Alors, face à ces difficultés, quelles actions avez-vous menées au niveau national et départemental ?
Et donc, alors plutôt, au niveau départemental, on sensibilise tous nos partenaires, toutes les couches de nos partenaires, les collectivités, les mairies, les communautés de communes, le département, les services de l'État. Mais au niveau national, Il y a eu une conférence le 7 mars au Conseil économique et social et environnemental qui a réuni toutes les associations des maires, les maires de banlieue, les maires ruraux et les politiques de la ville, mais aussi Madame Vautrin du ministère des Solidarités, qui est notre ministère de rattachement, pour essayer de trouver dans un premier temps une aide d'urgence, parce qu'on sait à peu près qu'il y a 200 centres sociaux en France qui sont vraiment en grande difficulté et 600 qui sont dans des difficultés à venir. Donc l'idée, c'était qu'il y ait un fonds d'urgence qui soit mobilisé. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse complètement effective là-dessus. Un fonds d'urgence qui viendrait, ce qu'on appelle du Fonds national d'action sociale, sur des crédits 2023 qui n'ont pas été utilisés, qu'on pourrait reporter sur 2024. C'est ça le premier objectif, d'aller chercher 65 millions à peu près pour aider les situations d'urgence. Et puis après, il y a sensibiliser aussi au modèle économique. Comment on repense le modèle économique ? Nous, on n'est pas inscrit dans une loi. Il y a l'institution CAF qui nous finance sur des projets à 4 ans, mais on n'est pas inscrit dans la loi. Donc comment on inscrit le modèle économique des centres sociaux en axant des financements sur du structurel et moins sur des projets, puisque c'est un peu notre difficulté aujourd'hui.
Merci beaucoup Louis-Marie Bonneval du Toit du Monde pour cette rencontre. Demain, dans Séquence Midi, nous accueillerons un représentant du personnel de la centrale de Civaux, puisque vous l'avez peut-être appris il y a quelques semaines, la centrale ne fera plus que de l'électricité. Elle va aussi contribuer à l'armement nucléaire. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Comme chaque lundi, c'est lundi détente à 14h à la Maison des Trois Quartiers, la M3Q à Poitiers, de 14h à 17h30. Vous trouverez des jeux de cartes, des jeux de société autour d'un thé, d'un café, agrémenté de discussions. Si vous avez envie de partager, de jouer ou juste discuter, le secteur citoyenneté vous accueillera avec plaisir. L'entrée est libre et gratuite. C'est le moment des concertations TER 2024. Pour donner votre avis, chaque année, il y a une concertation sur les lignes donc, de trains régionaux pour permettre aux usagers d'échanger avec la région, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion. Ça permet d'améliorer le service et d'adapter l'offre aux besoins. Donc, c'est pour les axes Tours-Poitiers-Tours, Tours-Bordeaux, Poitiers-Angoulême, Bordeaux-Angoulême. Et donc, il y a plusieurs étapes avec une plateforme pour donner votre avis, des réunions publiques et puis après, vous pouvez même retrouver ces réunions en replay. Donc, la réunion pour Poitiers, c'est ce soir à l'hôtel de région, donc salle plénière Jean Monnet. Et donc, c'est de 18h à 20h. Et puis, vous pourrez finir la soirée en dansant salsa, bachata, kizomba. C'est à partir de 21h au République Corner avec un cours à partir de 20h. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And the Tap Drips. Il y sera question notamment de la marche des fiertés à 19h, la bande dessinée avec X-Bull à 20h. C'est Punk, ce qui fête l'arrivée du mois de mai avec une spéciale fête de la lutte des classes et de 21h à 23h du live dans Scrognogneux. C'était Grégory à la réalisation technique. Merci à lui. On se quitte avec de l'électropop marocaine. Elle s'appelle Anna Wassim et voilà son titre Kamania Ice. Bonne écoute, à demain. I'm sorry.